Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'empreinte de l'histoire. Nous avons vu cette semaine d'abord la naissance du Mont-Saint-Clair dans l'histoire, la place du Mont-Saint-Clair dans l'histoire dans l'Antiquité. Nous allons voir aujourd'hui ce qui s'est passé sur le Mont-Saint-Clair pendant la période moderne, notamment pendant la période des guerres de religion, mais aussi période où la piraterie a infesté le golfe du Lion. Dans l'Antiquité, les rivages du golfe sont parcourus par de nombreux navires. Et le grand nombre d'épaves qui longent la côte languedocienne aujourd'hui le prouve. Ces naufrages pouvaient être accidentels, volontaires, c'est-à-dire la baratrice qui est une malversation commise par le capitaine, maître ou patron d'un navire, et parfois par l'équipage, au préjudice des armateurs et le plus souvent pour des raisons financières. Enfin, une partie des épaves sont la conséquence des actes de piraterie ou de naufrageurs. Et c'est d'ailleurs l'un d'entre eux qui remet le Mont-Saint-Clair dans la lumière. Il s'agit d'un certain Gaspard Dot, ou Dot, aussi connu sous le nom de Barberoussette. Ce surnom, plutôt moqueur, il est vrai, serait dû à sa barbe rousse et non pas à une supposée filiation avec les frères Barberousse, terribles pirates, à l'origine de la création d'un État à Alger. À la fin du XVIe siècle, les exploits de Gaspard Dot sont nombreux et sa réputation ne cesse d'augmenter des rivages de l'Hérault jusqu'en Catalogne. Son terrain de jeu, si on peut s'exprimer ainsi, est situé entre le Mont-Saint-Clair et l'île de Brescou. Il semble qu'outre une attaque fulgurante grâce à l'utilisation d'un brigantin, un petit navire rapide et maniable, Barberoussette affectionnait d'allumer la nuit un grand feu sur le Mont-Saint-Clair. Ce feu trompait les navires italiens, français, siciliens ou espagnols qui alors mettaient le cap sur cette lumière, persuadés de se diriger vers l'entrée du port voisin d'Agde. Cette erreur leur était fatale car ils étaient drossés sur les hauts fonds ou sur les rochers du Mont-Saint-Clair. Ils devenaient alors des victimes des hommes de Barberoussette. Néanmoins, si le Mont-Saint-Clair est un des terrains de jeu, justement, de Barberoussette, il semble que c'est sur l'île de Brescou qu'il s'établit avec ses hommes. Cette information nous est fournie par la Société d'études historiques et scientifiques de Sète, qui, grâce à ses recherches, a démontré que Barberoussette et ses hommes s'y sont installés. En 1586, la guerre de religion fait rage dans notre région. Le vicomte de Joyeuse, lieutenant du roi de France en Languedoc, décide de mieux protéger les côtes du Languedoc contre la marine de guerre espagnole et contre les pirates. Il s'attaque aux occupants de l'île de Brescou. Gaspard Dot tente de s'enfuir, mais traqué, il finit par être capturé. Or, ce qui est étrange, c'est qu'il ne finit pas sur une potence comme de nombreux pirates. Il semblerait tout moins qu'il passât un accord avec Joyeuse, et il lui aurait conseillé d'installer justement un fortin sur l'île de Brescou, ce que fit Joyeuse. La construction du fortin par Joyeuse, dont aujourd'hui il ne reste aucune trace, car celui qui est actuellement visible sur l'îlot de Brescou a été construit par un ingénieur de Vauban. Ce fortin, donc, ne suffisait pas pour assurer aux côtes languedociennes une sécurité efficace, notamment contre le risque d'atterrement, qu'on pourrait appeler un débarquement, de la marine espagnole. Ainsi, le roi Henri IV, qui était désireux de créer un vrai port servant de base à une marine de guerre pour mieux protéger la province et dans le même temps développer le commerce de la région, demanda à Henri de Montmorency de visiter la côte avec des experts pour déterminer un lieu adéquat. Et son choix s'arrêta sur le Mont-Saint-Clair. En 1596, Henri IV signe un arrêt de création d'un port au Cap de Sète. Le nom est donné. Doublé d'une forteresse et de la création d'une ville. Ce qui est construit en premier, c'est un fortin circulaire avec quatre bastions nommé Montmorency en l'honneur d'Henri de Montmorency. En revanche, la construction du port voulu par Henri IV rencontre une forte opposition par les États du Languedoc, l'Assemblée, en fait, si vous voulez, du Languedoc, qui refuse de financer la construction du port, arguant que c'était une décision du roi et qu'ils n'avaient rien demandé, eux, et donc que c'était au roi de le financer. Un début de construction du mol va être entamé à l'ouest du Mont-Saint-Clair. Mais les travaux n'avancent pas vite. En 1603, il n'y a qu'une vingtaine d'ouvriers sur le chantier. Après la mort d'Henri IV, en 1610, la construction d'un port est abandonnée. Il ne reste que le fortin qui sera lui aussi détruit, car le fils d'Henri de Montmorency, Henri II, avait rejoint l'un des innombrables complots du frère du roi Louis XIII, j'ai nommé Gaston d'Orléans. En réaction à cette réunion, ce, cette alliance, Louis XIII ordonna, et aussi Richelieu, ordonnèrent la destruction du fortin du Mont-Saint-Clair. L'île singulière retrouvait donc son calme habituel, mais pas pour longtemps. Car un roi de France, dont il ne fait pas bon discuter la volonté, et sur les conseils de son contrôleur général des finances, j'ai nommé Colbert, décida de construire un port dans le golfe du Lion. Louis XIV. Le mont Saint-Clair sera à nouveau choisi, mais cette fois, c'est à l'est du mont que les travaux seront lancés.
Pour tout renseignement, 09 53 49 85 50, contact@radioalliance-plus.fr.